Bonsoir tout le monde et bienvenue à la Maison Populaire. Pour certains, je crois que c'est la première fois que vous êtes dans nos locaux. Donc c'est une maison où il se passe plein de choses que vous pouvez découvrir sur le site internet maisonpop.fr. Donc je suis très heureuse en plus d'accueillir ce soir la quatrième lecture de Chaosmos de Félix Guattari avec de prestigieux invités, artistes et penseurs. Et tout ce travail, on le doit à Pascal, qui est maître d'œuvre, en fait. Voilà, c'est une très belle soirée qu'il a organisée, et à chaque fois, il y a des belles surprises. Voilà, merci à Pascal.
Oui, enfin, faut être nombreux pour pouvoir être nombreux.
Donc... On est un chef d'orchestre, Pascal, quand même. Hein. Voilà.
Donc, le cinquième lecture, cinquième rendez-vous, pour le chapitre... 6, sur le paradigme esthétique, le nouveau paradigme esthétique, un chapitre qui, comme les autres, nous pose des questions et dont nous ne chercherons pas forcément l'élucidation, mais bien sûr plutôt de façon processuelle d'accompagner cette lecture qui pour chacun est nouvelle, je pense, parce que l'affaire à plusieurs modifie la... modifie le sens, je crois. Voilà, bonne soirée. Chaos Rose 5.
Donc, chapitre 6 de Chaosmos, le nouveau paradigme esthétique. Voilà. La puissance esthétique de sentir, bien qu'égale en droit aux autres puissances, de penser philosophiquement, de connaître scientifiquement, d'agir politiquement, nous paraît en passe d'occuper une position privilégiée au sein des agencements collectifs d'énonciation de notre époque. Le nouveau paradigme esthétique a des implications éthico-politiques, parce que parler de création, c'est parler de responsabilité de l'instance créatrice à l'égard de la chose créée. Inflexion d'état de choses, bifurcation au-delà des schémas préétablis, prise en compte du sort de l'altérité dans ses modalités extrêmes. Mais ce choix éthique n'émane plus d'une énonciation transcendante, d'un code de loi ou d'un Dieu unique et tout-puissant. La genèse de l'énonciation est elle-même prise dans le mouvement de création processuelle. On le voit bien avec l'énonciation scientifique toujours à tête multiple. Tête individuelle, certes, mais aussi tête collective, tête institutionnelle, tête machinique, avec les dispositifs expérimentaux, l'informatique, les banques de données, l'intelligence artificielle. Le processus de différenciation de ces interfaces machiniques démultiplie les foyers énonciatifs autopoïétiques et les rend partiels à mesure que lui-même se déploie tous azimuts à travers les champs de virtualité des univers de référence. La chaosmose ne cycle pas mécaniquement entre zéro et l'infini, entre l'être et le néant, l'ordre et le désordre. Elle rebondit et bourgeonne sur les états de choses, les corps, les foyers autopoïétiques qu'elle utilise à titre de support de déterritorialisation. Elle est chaotisation relative à travers la confrontation d'états hétérogènes de la complexité. On a ici affaire à un infini d'entités virtuellement infiniment riches de possibles, infiniment enrichissables à partir de processus créateurs. C'est une tension pour saisir la potentialité créative à la racine de la finitude sensible, avant qu'elle ne s'applique aux œuvres, aux concepts philosophiques, aux fonctions scientifiques, aux objets mentaux et sociaux qui fondent le nouveau paradigme esthétique. La potentialité d'événements-avènements de vitesse limitée au cœur des vitesses infinies constitue celle-ci en intensité créatrice. Les vitesses infinies sont grosses de vitesses finies, d'une conversion du virtuel en possible, du réversible en irréversible, du différé en différence. Les mêmes multiplicités entitaires constituant les univers virtuels et les mondes possibles, cette potentialité de bifurcation sensible finie, inscrite dans une temporalité irréversible, demeure en absolue présupposition réciproque avec la réversibilité atemporelle, l'éternel retour incorporel de l'infinitude. Un coup de dé jamais, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles, du fond d'un naufrage. Cette irruption de l'irréversible, ces choix de finitude, ne pourront être cadrés, acquérir une consistance relative, qu'à la condition de s'inscrire sur une mémoire d'être et de se positionner par rapport à des axes d'ordination et de référence. Le pli autopoïétique répondra à ces deux exigences par la mise en œuvre de ces deux facettes, inextricablement associées, d'appropriation ou de grasping existentiel et d'inscription transmonadique. La chaosmose fonctionne ici comme la tête de lecture d'une machine de Turing. Le rien chaotique patine et fait défiler la complexité, la met en rapport avec elle-même et avec ce qui lui est autre, avec ce qui l'altère. Cette actualisation de la différence opère une sélection agrégative sur laquelle pourront se greffer des limites, des constantes, des états de choses. D'ores et déjà, on n'est plus dans les vitesses de dissolution infinie. Il y a un reste, une retenue, l'érection sélective de semblance et dissemblance. En symbiose avec des complexions infinies, des compositions finies se sertissent dans des coordonnées extrinsèques, les agencements énonciatifs s'enchassent dans des rapports d'altérité. La linéarité, matrice de toute ordination, est déjà un ralentissement, un engluement existentiel. Il peut paraître paradoxal que ce soit la persistance d'une néantisation, ou plutôt d'une déterritorialisation intensive, qui donne sa consistance corporelle aux états de choses et au point de vue autopoïétique. Mais seul ce type de recul linéarisant et rhizomatique peut sélectionner, disposer et dimensionner une complexité qui vivra désormais sous le double régime d'un ralentissement discursif et d'une vitesse absolue de non-séparabilité. La complexion virtuelle sélectionnée se trouve maintenant marquée d'une irréversible facticité, enveloppée d'une proto-temporalité qu'on peut à la fois qualifier d'instantané et d'éternel, et qu'on reconnaîtra aisément dans l'appréhension phénoménologique des univers de valeurs. Le transmonadisme, par un effet d'après-coup, fait cristalliser au sein de la soupe chaotique primitive des coordonnées spatiales, des causalités temporelles, des étagements énergétiques, des possibilités de croisement, des complexions, toute une sexualité ontologique faite de bifurcations et de mutations axiologiques. Ainsi, le second pli d'ordination autopoïétique, foncièrement actif et créationniste, décolle de la passivité inhérente au premier pli chaosmique. La passivité va se transformer en limite, en cadrage, en ritournelle sensible, à partir desquelles un enrichissement de complexité finie et contrôlée pourra advenir, tandis que l'hétérogénéité ontologique va se transmuer en altérité. Plus rien ne pourra faire que tel événement de ralentissement primordial et de sélection n'ait eu lieu, dès lors qu'il s'est inscrit sur la trame transmonadique autopoïétique. Telle limite aléatoire d'un point de vue virtuel devient accident nécessaire et suffisant dans l'extraction d'un pli de contingence ou d'un choix de finitude. Il faudra désormais faire avec, partir de là, y revenir, tourner autour. À travers cet essaimage de cristaux de finitude et cette déclinaison d'attracteurs de possibles, seront irrémédiablement promues des limites de territorialisation, telles que celles de la relativité et de l'échange photonique, des régularités et des contraintes, telles que celles du quantum d'action, que les agencements scientifiques sémiotiseront en fonction, en constante et en loi. Mais le point décisif reste que l'échappée transmonadique, loin de se résoudre en horizon fixe de néantisation, se reproduit en ligne de fuite tourbillonnaire infinie dont les circonvolutions, comme celles des attracteurs étranges, confèrent au chaos une consistance carrefour entre l'actualisation de configurations finies et une recharge processuelle, toujours possible, support de bifurcation ordinale inédite, de conversion énergétique échappant à l'entropie des stratifications territorialisées et ouverte à la création d'agencements d'énonciations mutants. C'est une tension vers cette racine ontologique de la créativité qui est caractéristique du nouveau paradigme processuel. Elle engage la composition d'agencements énonciatifs, actualisant la compossibilité des deux infinis, l'actif et le passif. Tension nullement figée, catatonique ou abstraite, comme celle des monothéismes capitalistiques, mais animée d'un créationnisme mutant, toujours à réinventer, toujours en passe d'être perdu. L'irréversibilité propre aux événements du grasping et du transmonadisme de l'autopoïèse est consubstantielle à une résistance permanente aux répétitions circulaires reterritorialisantes et à un constant renouvellement des cadrages esthétiques, des dispositifs scientifiques d'observation partielle, des montages conceptuels philosophiques, de la mise en place d'habitats, oikos, politiques ou psychanalytiques, écosophie. Produire de nouveaux infinis à partir d'une plongée dans la finitude sensible, des infinis non seulement chargés de virtualité, mais aussi de potentialités actualisables en situation, se démarquant ou contournant les universaux répertoriés par les arts, la philosophie, la psychanalyse traditionnelle. Toute chose qui implique la promotion permanente d'autres agencements énonciatifs, d'autres recours sémiotiques, une altérité saisie dans sa position d'émergence, non xénophobe, non raciste, non phallocratique, des devenirs intensifs et processuels à nouvel amour de l'inconnu. En fin de compte, une politique et une éthique de la singularité, en rupture avec les consensus, les rassurances infantiles distillées par la subjectivité dominante. Des dogmatismes de toutes sortes investissent et opacifient ces points de créationnisme qui rendent nécessaire l'affrontement sans relâche dans l'analyse de l'inconscient, comme dans toutes les autres disciplines, à des collapsus de non-sens, à des contradictions insolubles, manifestations de court-circuit entre la complexité et le chaos. Par exemple, le chaos démocratique qui recèle une multitude de vecteurs de resingularisation, d'attracteurs de créativité sociale en quête d'actualisation. Pas question ici de l'aléatoire néolibéral et de son fanatisme de l'économie de marché, marché univoque, marché des redondances de pouvoir capitalistique, mais d'une hétérogénèse des systèmes de valorisation et d'une éclosion de nouvelles pratiques sociales, artistiques, analytiques. Ainsi, la question de la transversalité intermonadique n'est pas seulement de nature spéculative. Elle engage une remise en cause de l'encerclement disciplinaire, de la refermeture solipsiste des univers de valeurs, aujourd'hui prévalents dans nombre de domaines. Prenons un dernier exemple, celui d'une redéfinition ouverte du corps, tellement nécessaire que la promotion d'agencements thérapeutiques de la psychose. Le corps conçu comme intersection de composantes autopoïétiques partielles, aux configurations multiples et changeantes, travaillant ensemble aussi bien que chacune pour elle-même, tous les corps, le corps propre spéculaire, le corps fantasmatique, le schéma corporel neurologique, le soma biologique et organique, le soi immunitaire, l'identité personnologique au sein des écosystèmes familiaux et environnementaux, la visagéité collective, les ritournelles mythiques, religieuses, idéologiques. autant de territorialités existentielles reliées par la même chaosmose transversaliste, autant de points de vue monadiques s'étageant, se structurant à travers des montées et des descentes fractales, autorisant une stratégie combinée d'abord analytique, psychothérapique institutionnelle, psychopharmacologique, de recomposition personnelle délirante ou de caractère esthétique.
Ah ben tiens, c'est commode de mettre de la pensée dans la langue. C'est pas toujours évidemment facile. C'est pas toujours aisé. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui caractérise la philosophie comme manière d'écrire, comme façon de faire texte, d'avoir ces espèces de mots très carapassonnés, urticants, ennuyeux. Il y a un effet d'ennui dans la philosophie, j'ai regardé au visage tout à l'heure. Il y a un effet d'ennui et d'incapacité, d'ennui et de se promener sur la surface ou sur l'écorce d'une terminologie vraiment très compliquée, très excluante, très urticante, très réservée. Et donc, c'est en même temps difficile de prendre la parole, c'est difficile de glisser sur l'écoute, c'est-à-dire d'atteindre ce moment de concentration où se produit quelque chose comme dans les mots de la pensée. Et en ayant dit ça, j'ai expliqué ce que c'était que le paradigme esthétique. Le paradigme esthétique, le chapitre 6 de Chaosmos, qui dit que pour penser,
Il faut peut-être prendre un risque, ça. Guattari n'est pas le premier à le dire. Ils sont nombreux. Elles sont nombreuses. Il n'y a pas que des hommes qui pensent. Nombreux et nombreuses à dire que pour penser, il y a un petit risque, une difficulté, une sorte d'apnée, un effet de équilibriste, un effet d'équilibriste et de difficulté pour obtenir quelque chose qui est la cristallisation dans des mots de quelque chose qui fait sens dans votre cerveau. Cet effet-là consiste à passer d'un modèle qui a longtemps, chez nous, les Européens, été le modèle de la vérité, qui est un modèle d'exposition où tout le monde est contraint par quelque chose qui descend dans une nacelle dorée du ciel et qui nous oblige à conclure que, en effet, 2 et 2 faisaient 4 de toute éternité. Modèle de la vérité antécédente. Tandis que là, on parle d'autre chose, on parle esthétique, et en parlant esthétique, on parle très bien du bout de ta parole à toi, comment tu l'as fait tout à l'heure, exactement, cette manière de procéder avec la bouche à quelque chose qui n'est pas signifiant, mais qui fait réfléchir. Qui fait réfléchir et qui fait penser. Raison pour laquelle il y avait de la guitare aussi tout à l'heure, avec de la lecture et de la guitare. Et dans la lecture et dans la guitare, et dans la lecture un peu précipitée des mots de Guattari, que pour la plupart nous connaissons ici, que nous aimons d'amour lointain, d'amour de longue haleine, ou que nous avons rencontré plus récemment, eh bien, nous l'aimons, mais lorsque il est lu comme ça, nous avons du mal à le comprendre. Non pas parce que tu aurais mal lu, Olivier, mais parce que dans ces textes-là, dans ces mots-là, c'est difficile d'avoir cette étincelle de compréhension. Donc, on n'est pas dans la vérité. On n'est pas dans la démonstration d'une vérité pas à pas. On est dans un effet de sens. Il se produit, il ne se produit pas. Cet effet de sens, il fait voir une nouvelle figure de la parole, qui n'est plus la figure de la science, mais ce que Guattari a nommé, et maladroitement à mon sens, paradigme esthétique. Je dis maladroitement parce que paradigme, c'est lourd, c'est grec, c'est réservé. Esthétique aussi, c'est un petit peu mastoc. Paradigme esthétique, ça fait menu très consistant. On a besoin d'un pouce café, d'un apéritif, on a du mal. Mais ce qu'il veut dire est très simple. Il veut dire que quand on pense, la plupart du temps, ça rate. Il veut dire que pour chacun d'entre nous, ça peut prendre la figure de raté. Il veut dire que pour chacun d'entre nous, lorsque nous écoutons quelqu'un, la plupart du temps nous nous ennuyons, nous avons du mal à comprendre, et lorsque nous nous ennuyons, merci de rire derrière moi, lorsque nous nous ennuyons, nous voyons que ce qui est ennuyant dans la parole, c'est lorsque les mots soit utilisent un jargon tellement réservé que nous nous sentons exclus, soit tatouillent dans des choses déjà sues qui font que nous n'apprenons rien. Donc ce qui fait que la parole rate, c'est sa capacité de bêtise. Ça, c'est quelque chose que cet ami de Guattari, Deleuze, avait déjà dit. Et ce que je veux vous dire de plus fort concernant le paradigme esthétique, c'est que ce qui caractérise le paradigme esthétique, c'est pas seulement qu'on peut rater par bêtise. Ça nous arrive souvent. C'est pas seulement ça. C'est que pire encore, et pour chacun d'entre nous, on peut rater. Non pas par bêtise, mais raté parce que justement, là où ça déconne, ça résiste, ça bégaye, là où ça trébuche brusquement, il peut y avoir quelque chose qui est une pensée réussie. Voilà. Donc le paradigme esthétique, c'est ça. À la lisière de la bêtise, et pour chacun d'entre nous, parfois, on peut oser tenter, penser, et pour chacun d'entre nous, ça peut réussir. Donc, vous voyez, penser, ça n'est pas réciter sa leçon. Penser, ça n'est pas avoir la réponse à sa leçon avec un vocabulaire réservé. Penser, c'est chercher dans une terminologie, alors qui ici est un petit peu, comment dire, consistante. Et pourtant, ce qu'il veut dire, Guattari, est simple, assez simple. Il veut dire, un, on l'a déjà dit, que penser, c'est tenter son coup. Tenter son coup, c'est jeter son coup de dé. Et jeter son coup de dé, il faut vraiment une catastrophe, on ne le fait pas comme ça. On le fait quand on n'y arrive pas. On le fait quand on est à la lisière entre la bêtise qui ne marche plus et quelque chose qu'on n'a pas encore inventé. Et c'est comme ça qu'on pense. on pense à la lisière de son ignorance, on pense à l'extrême bout de son savoir, on pense dans une tentative qui fait que cet effet, c'est ce que Guattari appelle chaosmos. C'est ça, c'est ce processus. C'est-à-dire, vous dites quelque chose, mais vous ne savez pas. Si vous le saviez, ça serait idiot. Non mais, quand vous parlez de ce que vous connaissez, vous êtes la plupart du temps extrêmement, comment dire, enfin, si vous l'aviez déjà pensé. C'est pas comme ça qu'on pense. Donc on pense tentative, on pense processus. Et c'est pour ça qu'on est passé du paradigme que Guattari appelle esthétique. Enfin, qu'on est passé d'un paradigme qu'il appelle scientifique au paradigme esthétique. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est une certaine consistance. Il veut dire que penser, c'est risquer, d'accord ? C'est risquer et prendre consistance, ok ? Que cette consistance, elle consiste à faire un peu cristalliser quelque chose, à cristalliser des nouvelles significations, et pour ça, ça passe toujours par un moment insignifiant. Ça passe toujours par un moment où il y en a beaucoup des syllabes et on ne les comprend pas. Ça passe par un effet insignifiant de recomposition du sens. On peut l'expliquer. Et vous voyez, ma voix prend un petit ton didactique, un petit peu autoritaire. J'ai lancé ça. Une voix de professeur. C'est pas comme ça qu'on pense forcément. Il y a une sorte, bon, néanmoins, de relance processuelle. Et je crois que c'est ce qui fait le charme de la rencontre ici. C'est que la philosophie se mêle à quelque chose qui est de la pensée en acte, et une pensée qui n'est pas seulement au niveau du discours, qui n'est pas seulement au niveau des idées, une pensée qui est en plein dans les affects, une pensée qui est une recomposition. Cette recomposition, on l'a fait, Pascal, grâce à ton montage d'événements, de guitare, de performance, de moments de concept. On va avoir du Skype tout à l'heure avec Eric Aliès et Barbara Klosewski à travers l'écran, où pour l'instant on voit simplement la couverture de Chaosmos. L'ensemble de ces modalités-là font de la philosophie quelque chose qui est aussi une découverte, une surprise, une périlleuse tentative. Pas simplement des mots, donc, mais un effet de sens. Cet effet de sens, c'est ce que Guattari appelait transversalité. Et cette transversalité, elle est due au fait que il y a un jet de dés, un jet lancé. Il y a ce lancer hasardeux. Ce lancer hasardeux, c'est une tentative qui marchera ou qui ne marchera pas. Elle prend ou non consistance. Et en prenant consistance, elle nous fait passer d'une figure de la vérité comme un carcan, déjà là, dans le passé, vers un nouveau type de consistance du discours. On ne dit pas ce qui s'est déjà produit, on ne dit pas quelque chose qui a déjà été présent. On essaie d'inventer quelque chose qui n'a pas encore été là. On essaie de dire quelque chose qui n'est pas encore défini. On se lance vers l'avenir, c'est ça la consistance esthétique. C'est ça la consistance du paradigme esthétique. Et c'est pour ça que Guattari pense que la figure de l'art remplace celle de la science, mais aussi, elle la remplace aussi pour la science. Et ne croyez pas que paradigme esthétique veut dire que nous tous devons être artistes, saisir la guitare, chanter, danser. Ça veut dire que pour la science aussi, la manière dont la science fait, invente des territoires existentiels, invente des univers de référence, la manière dont la science travaille procède également de ce modèle inventif et ouvert et prospectif. Nous travaillons pour après-demain et pas pour avant-hier. Nous cherchons à consolider ensemble quelque chose qui est une signification pour après-demain. C'est ça, le territoire existentiel du paradigme esthétique. Et c'est ça qui explique comment une phrase de Guattari peut être absolument limpide. Je vous en propose une. J'ai un petit peu perdu l'espace de mon temps, donc Pascal, fais-moi là. Je vous en propose une, on va faire cette petite tentative. La machine, dit-il, la machine, c'est quoi une machine ? La machine, toutes les espèces de machines. Toutes les espèces de machines sont toujours à ce carrefour du fini et de l'infini. à ce point de négociation entre la complexité et le chaos. On ne comprend rien, alors on l'explique un petit peu. La machine. Bon, la machine, ce n'est pas un individu technique comme ta guitare, la lampe, le micro. C'est pas seulement l'individu technique, mais c'est l'ensemble de l'agencement. L'individu technique, plus ton corps, plus le lien, plus celui-ci, plus ensemble, plus un sale Montreuil, plus la planète Terre sur laquelle nous tournons. La machine, c'est l'ensemble de l'agencement. La machine, dire quelque chose d'une machine, c'est dire quelque chose de toutes les machines. Et une machine, qu'est-ce que c'est? C'est la négociation d'un carrefour. Un carrefour, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Penser, c'est une tentative qui prend consistance, parfois ça rate pas, c'est un carrefour, prise de consistance. Prise de consistance, c'est forcément carrefour, parce que carrefour, c'est forcément des choses qui entrent en connexion, elles sont forcément différentes, elles prennent consistance dans le carrefour, ça foire, ça marche. Quand ça marche, c'est ce que Guattari appelle une schizze. Une schizze, c'est un carrefour de possibilités. Quand c'est une schizze, un carrefour de possibilités, alors, on comprend exactement, c'est la définition de la chaosmose. On comprend un point de négociation. Bonne négociation. Une négociation de pourparler. Un point, ça s'arrange comme ça peut, ça foire souvent, parfois ça réussit. Quand ça réussit, c'est que ça va marcher un petit peu, pour un certain temps. Mais pas pour tout le temps, pour un certain temps. Ce point de négociation va marcher pour un certain temps. Paradigme esthétique, un certain temps, entre la complexité et le chaos, entre la complexité et le chaos, l'étincelle d'une compréhension. Merci.
Une parole libre, une cycle, place. Droit, cycle, droit, les droits, il, droit, place. File, la libre, la parole, qui l'est. La place, qui place. Et les droits, les nègres, les droits, il, place. Le libre, il qui a cet homme. Le libre, la se pèse.
Merci Caroline. En fait, moi, je me suis arrêtée sur une page là, en écoutant la ritournelle, puisque c'est comme ça que j'avais appelé cette pièce. Sur une page que je trouve vraiment, je l'ai appelée comme une page paysage, la page 156, et qui pour moi me montre comment tout le temps dans ce chapitre, Félix fait jouer deux pôles d'élasticité, deux pôles vraiment entre des vitesses fort différentes et extrêmes, celle d'une accélération, celle d'une vitesse infinie, l'infini, et puis des ralentissements. Et comment ces deux pôles en fait coexistent, mais évidemment ils coexistent comment ? Dans une continuité, dans un assagissement, une forme compatible ou pas ? Ou est-ce que ça reste incompatible ? Est-ce que ça reste un espèce d'écart qui finalement ne se règle pas, ne fait pas un mélange, un hybride, une chose réellement continue, mais qui reste peut-être discontinue, qui reste non conciliable, quoi. Pourtant, c'est ça la chaosmose, dit-il dans cette page-là. Cette chaosmose qui n'oscille donc pas mécaniquement entre zéro et l'infini, mais qui rebondit et rebondit et utilise des points pour démarrer, pour en fait s'orienter, s'accrocher quelque part. Et c'est plus cette processualité de mouvement, peut-être, simplement ce mouvement qui peut être tantôt de fuite, d'accélération, soit un peu néantisante, c'est-à-dire ne plus savoir pourquoi quelque chose a raison d'être, ou a encore une vitalité, une permanence, ou du moins en douter. Et puis quelque chose qui fait qu'il peut y avoir à un moment une rupture, que la rupture est possible, non pas une rupture forcément cassante ou c'est pas des histoires de passé et de futur, mais c'est plutôt ce que je sens, c'est cette vitalité qui est très proche de du geste c'est une pensée qui est très proche du geste de la danse, de la peinture. Je crois que cette page, à un moment, je l'ai vraiment vue comme une peinture dans laquelle s'affrontent des choses incompatibles, des choses qui ne vont pas faire une unité, qui ne vont pas faire une figure. Ça ne va faire qu'un mouvement habité par une contradiction. Et je trouve intéressant qu'il en appelle à une puissance de sentir, pour se sortir de cette contradiction, pas pour se sortir, pas pour l'éliminer, pas pour la régler, mais que sentir serait une modalité qui permet alors de penser davantage de mouvement, davantage de contradiction, peut-être, hein, peut-être. Et que ce chapitre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, que pour aujourd'hui j'aurais voulu peut-être synthétiser davantage, mais en fait il m'échappe encore une fois, il va falloir que je le relise encore une fois et peut-être même plusieurs. Et décidément, je crois que la lecture de Chaosmos me fait quand même cet effet de tout le temps avoir l'impression que j'attrape quelque chose et tout le temps avoir l'impression que quelque chose s'échappe et redemande une énergie qui au fond n'est jamais la même, parce que je ne reviens pas sur les pages de la même façon, je ne relis jamais la même chose. C'est quand même pour ça que c'est un livre qui s'échappe, c'est parce qu'il ne nous remet pas sur le sentier de la répétition du même, de le dire « Ah oui, mais ça je sais, j'ai déjà vu. » Non, chaque fois on regarde, on se dit « Attends, ça, je ne l'avais pas connecté comme ça, je n'avais pas vu ça comme ça. » Bon. Donc, on pourrait dire certainement des choses plus élaborées. Néanmoins, je crois que tout ce vocabulaire qui est en cours de route apparaît, naît, on pourrait en faire vraiment quelque chose comme une cartographie, celle d'une page. Alors aujourd'hui on n'a pas pensé à ça, mais on aurait pu pour une prochaine fois penser à quelqu'un qui s'intéresse à reconstituer les mouvements purs qui habitent certaines de ces pages et qui sont en fait, je pense, non pas opaques, mais peut-être la tentative de Guattari d'aller au plus proche de quelque chose que le langage n'accorde pas, qui est de ne pas être linéaire. C'est-à-dire que le langage qu'on veut entendre comme sensé, comme porteur d'un sens dont on est convaincu et dont on se dit « Ah ben oui, là j'ai bien lu, j'ai bien compris, et puis ce qu'il dit est vrai », ben ça ne marche pas. Voilà. Parce que Eric avait dit qu'il appelait à 55. Mais. T'en as un ?
Oui, j'en ai un. Plus vif, par vif, fort mot secret. Puif, hâtif et réo, oro et ré. Musif, par vif, secte, hot, fort. Hot et crité. Secret mot par lèvres, secret lèvres mot, et réo par lèvres, parle le vrai coin masque. Suite, poids, vif, commerce, forme, départ, tout départ, le déforme. Souffle, mot, commerce, mot, secret, créo, point, masque, parle des. Souffle, mot, commerce, langue, suit par le masque, ça dépoidé parle des formes mots. Se croit par mot, secret noir, poisque parle des. Sa vie, ouate, signe des commères, des ça, des poids, des formes mots. Sa vif, pif, signe vif, commerce, vif, secret mot, poids, masque parle des. Masque parle des plumeaux, parle mot, ça dépoidé des formes mots. Suit plus vif, parle vif, orme des par masque, merce sa dépoidé. Forme-mot, lève-mot, forme des partout, des parles, des formes-mot.
Bonsoir, Pascal.
Je ne te précède pas trop, tu étais prêt à nous rejoindre?
Oui, oui, absolument. Plus tard, ça, mais là, je cherche la chose, tu vois mon habitude de Skype.
Oui, moi aussi, je cherche un peu.
Mais bon, on cherche
tous. On cherche tous, alors. Attends, je vais te mettre sur fond noir.
Tu vas mettre sur fond noir. Bon, si ça fait pas trop d'œil, ça peut laver.
Non, non, d'œil en aucun cas. Non, non, non.
Et alors
nous, on a, oui, on a fait. Ah, c'était prévisible.
Ouais. Non, non, bon, écoute, nous, on a un verre de vin.
Oui. On en a eu, mais peut-être pas autant que toi.
Qu'est-ce que tu veux dire?
C'est du bon vin italien.
C'est l'idée d'un shop qui s'appelle Rêve d'insomnie, qui te fait dire qu'on carbure au gros rouge, c'est ça, hein?
L'insomnie, c'est pas encore l'heure pour l'insomnie.
Oui, mais si, je t'assure, parce qu'on a commencé il y a 3 jours, donc c'est vraiment forcément. Bon, dis-moi un peu.
Comment tu nous parlerais de cette dimension peut-être proto-esthétique? On a trouvé que le mot esthétique était très lourd.
Je t'en prie très mal, Pascal, excuse-moi. Voilà.
Ah, comment il faut qu'il m'entende?
Il faut que tu parles dans ton micro.
Dans mon micro, mais quel micro?
Il est près de ta...
Le micro là?
Non, le micro de ton...
Là, tu m'entends mieux?
Ah, c'est mieux.
Non, c'est nous qui nous entendons.
Je suis d'à côté, Pascal. C'est toujours celui d'à côté du micro.
Oh là là, que c'est... Je ne sais pas où sont les micros. Moi, les micros, c'est pas, je vraiment entendre.
Hein? Dans ton écran, tout à
l'heure. Dans les bières. Hein? Tu es sûr que tu m'entends pas?
Tu m'entends très bien, Eric.
Je
ne
sais pas. Attends. Comment? Ouais.
C'est probable.
Ça va?
Mais oui, ça va.
Écoute-moi, c'est normal.
Tu m'entends pas bien?
Oui, mal, c'est un peu entrecoupé.
Ah,
oui, mais enfin, on comprend quand même.
On l'entend, donc il a qu'à parler.
Peut-être qu'on devrait lui chanter quelque chose encore.
Non, ça va aller. Donc, oui, moi... Avec un peu des...
Éteins quoi? Mais comment on peut éteindre le... Ah, éteins le vidéo.
Vous m'arrêtez comme des bananes, là. C'est trop drôle, l'exercice carré. Mais oui.
Ça marche pas vraiment, hein.
C'est vrai, c'est de la mécanique. Pas ta mèche. Enfin...
Eric, on est dans un exercice de bégaiement créateur extraordinaire.
Parce que bon, écoute, c'est bien, parce que là, moi, je ne vous vois plus du tout.
Oui, imagine-nous dans le noir, t'écoutant. Parle-nous de Guattari.
Oui, alors ça, c'est un peu intimidant, évidemment. Mais vous m'entendez ou pas? Oui.
Oui.
Ah,
non, c'est bien. Ben, c'est bien. Si ça va très, ça marche pas. On l'entend, on l'a dit. Mais non, on l'entend pas. Il s'ennuie quand il est tout seul.
Ça se fait qu'il débranche la caméra, ça marche pas.
Mais oui, il faudra qu'elle souffle. Là, il a carrément... Non, c'est moi qui ai des peines et on va attendre qu'il appelle lui. Ah oui, je crois qu'il a remercié. Ah, ben c'est pas le Brésil, hein. C'est l'Italie.
C'est trop près.
C'est trop près, c'est ça.
Hein? Les Brésiliens, ils s'habillent. Ils
s'abandonnent, hein. Tout à l'heure, ça... Voilà, il appelle. Mais on va essayer, puis on va laisser tomber. C'était prévisible qu'on y arrive ou non, hein.
Tout à l'heure, ça marchait.
Ça marchait
tout à l'heure. Ça marchera demain.
Alors laisse aller. Peut-être que s'il appelle, c'est mieux. Cher Eric, on essaye encore un peu, mais ça coupait beaucoup.
Mais oui, je sais, je suis vraiment désolé, mais
là, bon, enfin, on va faire sans image. Hein, parce que
là, c'est parfait.
Voilà. Parfait. On fait sans image parce que je pense que ça passe mieux, juste le son.
D'accord.
Okay.
D'accord. Ok, très bien. Bon, voilà. Je En gros, il y a une seule chose que je voudrais essayer de dire, c'est que je...
On va directement au fait, hein. C'est
un
Allô, allô.
Ouais, ça marche, oui.
Ah bah c'est génial.
Bon bah alors c'est ça.
Qu'est-ce
marche.
Qu'on fait? Non parce que le problème c'est que je commence une phrase et ça coupe au milieu. Et visiblement, d'après le signal que j'ai, ça n'est pas un problème à partir d'ici, parce que le signal est vraiment au plus haut.
Mais moi j'ai un signal.
Donc un problème de connexion là-bas.
Ah bien sûr. Oui. Mais je ne sais pas où sont les signaux.
C'est
parfait.
Mais pas toujours parfait, Pascal, c'est autre chose.
Cher Eric, t'as lu mon petit mot?
Je sais pas.
Non.
Je te dis que ça marche quand même pas très bien.
C'est le mot que tu me disais que c'était parfait.
Oui, je te propose de laisser tomber.
Ça marche.
Ça marche, ça marche. Ils veulent tous que ça marche.
On s'amuse, là.
On s'amuse, paraît-il. Est-ce que tu t'amuses?
Bon, bah, j'ai cru.
Pourquoi? C'est vraiment si gêné, moi. Je crois que ça marche pas. C'est très chaosmose. Tu m'entends? Il est déconnecté.
Non, là, il est déconnecté.
Alors, on a fait inventer ce qu'il aurait dit.
La seule chose, en plus, il voulait dire qu'une chose. C'est pour ça que dès que tu calmes, tu lui dis la chose.
Oui, c'est la chose.
La chose directe.
Quand même, hein.
La chose. Avant que ça me coupe la chose.
Non, je suis un peu trop.
Ah, ça marche pas bien, tu sais. C'est normal, c'est la chaosmose. Mais tu es là, alors.
Oui, non. Ben écoute, je suis là par intermittent, sans faire de mauvais jeux de mots.
C'est vrai, de temps en temps, on entend un peu.
Attends, Barbara voudrait dire un mot.
Oui.
Ah, salut Barbara.
Bonjour.
Puisque quand même je suis là, je veux juste vous dire avant que ça...
La chose.
C'est Nicolas Tino. Écoute bien, Brigade Rouge, 28 ans de prison, qui nous a fait un exposé absolument formidable, comment à 16, ils se sont racontés et écrit leurs rêves pour arriver à s'en sortir en prison. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a à dire. On va aller retourner voir les autres et puis on vous souhaite de bonnes discussions ce soir.
Mais ça marche très bien. Merci Barbara.
Ben, et bien alors...
Non, mais alors, qu'est-ce qu'on fait si ça ne va pas bien?
Je parle, allez-y.
Non, ça marche pas.
Alors, la seule chose que tu voulais dire,
c'est quoi la chose?
Bon, alors, ça marche très bien, ça marche pas très bien. Ça devient un truc de con, là.
Je
suis obligé de parler des brigades rouges pour que ça marche.
Je vous embrasse.
Tu nous embrasses, ça veut dire que tu nous laisses tomber, lâche.
C'est toi qui l'as coupé.
Je comprends pas ce qui se passe, parce que de temps en temps, quand il parle du temps,
mais
ça
là, t'as vu, ça marche bien. Mais parce que Skype, il est comme ça, il
ne touche rien, Pascal.
Dans une salle de ménage, c'est normal que ça se passe comme ça.
Oui. Enfin, je suis quand même pas en ménage.
Cache les assiettes, il allait engueuler. Hein.
Oui, oui, oui. Oui.
Et une vraie censure.
La censure, ben, pareil. Hein.
Oui, il allait engueuler et l'ordinateur n'a pas voulu.
Ah, c'est ça. L'ordinateur veut pas.
Mais là, il est parti.
Non, il est là.
Ah bon, bah, qui parle.
Non, il est là, mais.
L'ordinateur veut pas quoi.
Ah bah, tu es là, mais il est là.
Il écoute aux portes.